Bonjour à chacun, soyez les bienvenus pour ce moment de culte et que vraiment chacun se sente à l'aise, bien accueilli, bien aimé par les uns et les autres. Petite question, est-ce qu'il y a des gens peu habitués à venir ici ou qui sont là pour la première fois? Ce n'est pas le cas. Ou alors ils n'osent pas s'annoncer. En tout cas, que chacun se sente bien. Une bienvenue particulière à Serge Carrel qui assurera la prédication ce matin. Je me disais, mais qu'est-ce qui nous distingue en tant que personnes qui vont au culte? Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on est habillé différemment? Est-ce qu'on a un look différent le dimanche? Et puis, on est quand même des gens un peu particuliers parce que ce matin, on ne va pas faire du ski. On ne va pas faire du vélo ou de la course à pied, on va rester ensemble au culte. On est vraiment différents. Et en fait, on n'est pas au café avec les copains non plus à 9h30, comme beaucoup le font. Alors qu'est-ce qui nous distingue? Et une chose qui est différente pour nous chrétiens, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors c'est ça que chacun pourrait montrer aux autres, et que les autres nous reconnaissent justement avec cette différence. Alors je vais lire un texte qui est comme un sandwich. Vous aimez les sandwichs, les gros sandwichs comme ça, avec un gros morceau de pain d'un côté, un gros morceau de pain de l'autre, et puis au milieu, quelque chose de bon, par exemple, une tranche de jambon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est un texte que j'ai trouvé dans 1 Corinthiens 13, et 1 Corinthiens 13, évidemment pris entre le chapitre 12 et le chapitre 14, et c'est le morceau de choix que j'ai choisi. Je vous le lis. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un bout de métal qui résonne ou une cymbale qui fait beaucoup de bruit. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, des prophéties, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés, livrer mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert strictement à rien. Qui aime est patient et bon, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette occasion de nous retrouver, de te célébrer, de faire la fête et nous te remettons ce moment pour chacun d'entre nous. Que ton esprit agisse, que ton esprit nous parle, que ton esprit intervienne dans notre cœur. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va juste commencer par les annonces. Il y a quelques annonces. Je retrouve mon papier des annonces. Alors, les études bibliques, il y a un petit souci. Donc, elle n'a pas eu lieu la semaine passée. Et ce mardi 14, l'étude biblique est aussi annulée parce que Philippe Anchaud n'est pas bien. Donc, on vous donnera quelques nouvelles tout à l'heure. Mais en gros, Philippe Anchaud donc, a eu une fascite plantaire, ça c'était le moindre mal, mais ça lui a quand même fait mal, donc un problème au pied, et il a attrapé la grippe qui s'est changée en pneumonie, donc il a dû être soigné et il est en arrêt maladie. Donc malheureusement, l'étude biblique de 14 est annulée, celle du 21 aura probablement lieu. Au niveau de la prière universelle, vous savez que cette semaine, c'est la semaine de la prière universelle. Alors, je ne sais pas si on a des papillons. Est-ce qu'il y a une présentation qui peut être faite? Je ne sais pas. Donc, cette prière universelle aura lieu cette année à l'église de Mérin, celle du mercredi à 19h. Vous pouvez venir même un peu plus tard et qui sera animée par justement notre communauté. Les brochures seront disponibles à la sortie, alors on vous encourage à venir, non seulement pour fêter, faire une, une soirée ensemble, mais aussi parce qu'il y aura toutes les communautés du réseau évangélique Genevois, donc il y aura plein de personnes, d'autres communautés, et ce serait bien qu'on soit là, présent aussi avec eux. Une dernière annonce, une avant-dernière, c'est le goûter des princesses. Je vois qu'il y en a une devant moi. Le 8 mars, en début d'après-midi. Donc là, vous aurez encore des informations plus tard. Une dernière annonce concernant les cours bibliques de la FRAE. Est-ce que Serge en parlera tout à l'heure? Je ne sais pas où il est. Alors, on va vous donner les détails.
Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à chacune et à chacun. Voilà, vu que j'ai demi-temps, qu'on est dans une dynamique aujourd'hui d'échange de chair entre les églises FRAE de Genève et que mon autre mi-temps est consacré à la formation d'adultes dans la FRAE, j'aimerais juste vous signaler deux rencontres organisées par le Free College. La première, revitaliser une église qui aura lieu le samedi 25 janvier à l'église de la Pélisserie, donc dans le centre-ville de Genève, avec un monsieur qui s'appelle Dan Brown, qui est... David Brown, pardon, ou le lapsus terrible, David Brown, qui a écrit un livre justement sur cette dynamique de revitalisation des églises. Donc, vous êtes vraiment cordialement invités. Il y a quelques flyers à disposition dehors. Et il y aura les 28 février et 1er mars, une journée à la Bessonne, ça c'est dans le canton de Vaud, au-dessus d'Orbe. Il y aura une journée sur le thème des récits de création, Genèse 1 à 3, avec Robin Rive, qui est professeur d'Ancien Testament à la HET Pro, et Jean-René Moret, qui est à la fois physicien, théologien et en même temps pasteur à Cologny. Donc voilà, il y a des flyers concernant ces deux rencontres. Et puis, il y a encore juste une slide, et ça, j'y tiens. Vu que je suis pasteur à mi-temps à la Pélisserie, on a des très bons contacts avec le Musée international de la Réforme que vous connaissez tous. Vous aimez tous les musées et vous allez régulièrement avec des amis qui visitent Genève vous immerger dans la réalité de Calvin et de tout ce qui a suivi du point de vue de l'histoire de l'Église. Bien sûr, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'automne dernier, il y a un livre majeur sur le Réveil de Genève qui a été publié, Le Réveil de Genève, perspective internationale. Et puis, ce livre est vraiment un livre, entre guillemets, scientifique qui, je crois, va booster les recherches autour du Réveil de Genève, donc qui est l'événement à l'origine de nos églises au début du 19e siècle. Et on organise un vernissage de ce livre avec trois contributeurs qui seront là dans le cadre d'une table ronde qui aura lieu le jeudi 6 février à 18h30 au Musée international de la Réforme. C'est juste à côté, juste au-dessous de la cathédrale Saint-Pierre, donc dans le centre-ville de Genève. Je sais que les Mérinois, c'est la réputation que vous avez, ne se déplacent jamais, que peu, se déplacent que peu dans le centre de Genève. Mais je pense que ça vaut la peine. Il y aura la possibilité de visiter le musée quelques instants si vous arrivez à 18h. Et puis à 18h30, il y aura ces tables rondes à l'occasion de... ce vernissage de ce livre qui est un excellent livre que je vous recommande. Donc voilà, ça c'est pour le jeudi 6 février à 18h30. Merci beaucoup de votre attention, puis désolé d'avoir été long.
Bonjour à chacune et à chacun. On attend aussi le réveil de Mera, hein, pas seulement de Genève. Je crois qu'on peut. Il commence par nous, je crois. Au début de l'année, comme de coutume, on se souhaite évidemment une bonne année. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur à quelle période de l'année l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Mais en tous les cas, voici ce qu'il leur souhaite et qu'évidemment, je nous souhaite pour cette année. Au début de l'épître aux Éphésiens. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alors que, ouais, que nous sachions quelle est cette espérance que nous avons, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste dans cette résurrection de Jésus-Christ, et que ouais, nous pouvons chanter cette gloire et louer Dieu pour tout cela. Sa lettre, Paul demande encore ceci à Dieu en faveur de ses frères et sœurs d'Éphèse. Il dit, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi. Alors je crois que nous avons toutes et tous besoin d'être fortifiés dans notre être intérieur, que le Christ nous visite. Alors, recherchons-le, accueillons-le, et laissons-nous visiter, transformer par lui.
C'est ton cœur que je recherche, dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix, mon cœur ne brûle que pour toi, c'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste est perdu en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, tes bras, je me repose, tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix, Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, ne reste pas en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Ne reste pas en importance quand je suis là dans ta présence.
Paul formule encore la demande suivante à Dieu pour ses frères et sœurs et pour nous. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Être comblé de toute la plénitude de Dieu, quelle glorieuse perspective, n'est-ce pas? Alors, voyez que le Seigneur change nos cœurs pour que nous puissions l'accueillir pleinement dans nos vies.
Transforme-nous pour toi. change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre pour moi ton nouveau repère. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair.
S'arrête pas avec ce dernier chant, mais qu'elle continue aussi en s'appuyant sur la conclusion que Paul nous laisse à Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Alors, sa puissance, elle agit aussi en nous par sa parole. Et je vous invite à reprendre place. Et je laisse Serge nous apporter la parole que Dieu lui a confiée pour nous ce matin.
Les enfants, vous pouvez retourner dans vos groupes. Vous serez accueillis par vos maniteurs et vos maîtrises.
Est-ce que vous avez des textes de la Bible qui sont des textes qui vous portent de manière particulière? Oui? Lequel? Ou lesquels? Juste comme ça maintenant, est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Donc c'est un texte, c'est même, c'est pas un texte, c'est une sorte de punchline de la Bible qui, voilà, vous porte de manière particulière. Merci. Quelqu'un d'autre ? Soyez toujours joyeux, ça c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est aussi un mot d'ordre, une punchline là, qui, dans certaines circonstances, parfois, peut faire du bien et peut encourager, ouvrir à autre chose. Encore quelqu'un ? Oui, voilà, ça c'est aussi, dans des temps difficiles, la possibilité de s'en remettre au Seigneur pour goûter à sa paix. J'aimerais ce matin vous proposer un texte, un psaume. Parce que les psaumes, vous savez, c'est des textes qui, quelque part, peuvent, dans certaines circonstances particulièrement délicates et difficiles de notre vie, ce sont des textes qui peuvent nous porter, qui peuvent nous encourager. Et le psaume que j'aimerais lire avec vous ce matin, c'est le psaume 13. Vous connaissez le psaume 13 ? Quelqu'un en a fait... Non. Ok. Je vous propose de lire ce psaume. Du chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai emporté sur lui, j'ai gagné, je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. Et le dernier verset, verset 6 de ce psaume 13, « Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur car il m'a fait du bien. » Ça, c'est le premier texte que j'aimerais méditer avec vous ce matin. Et puis, il y en a un autre, un peu qui fait écho à ce texte et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Les versets 28 à 30, puis voilà, vous auriez pu, quelqu'un aurait pu tout à l'heure mentionner ce texte. Hein. « Venez à moi, parce qu'il est très connu, venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. » Nous voulons prier. Seigneur, ce matin, j'aimerais nous apporter chacun devant ton trône, devant toi, pour que tu parles à nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin d'une parole qui renouvelle en chacun d'entre nous l'espérance. Parce que tu es vivant pour l'éternité, nous le croyons, Seigneur. Et ce matin, je te demande humblement que ton esprit nous renouvelle et nous apporte ta consolation, si nous en avons besoin, qui nous apporte aussi ton espérance. Amen. Amen. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Cette question du psaume 13 peut résonner dans toutes sortes de circonstances de nos vies. Par rapport à la maladie, il y a peut-être parmi nous des gens qui souffrent dans leur corps. Le suivi médical parvient à peine à améliorer les choses ou à atténuer peut-être les douleurs. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Certains ont peut-être connu des problèmes physiques comme un AVC qui rend incapable, certains en tout cas, de se déplacer et de s'exprimer comme par le passé. Et quand vous vous trouvez dans une telle situation, vous pouvez faire vôtre cette parole du psaume 13. Jusqu'à quand vais-je me trouver dans un tel état ? Jusqu'à quand ce parent va-t-il se retrouver si extraordinairement dépendant et handicapé dans sa prise de parole et dans sa motricité ? Et lorsqu'on se retrouve dans de telles situations de maladie, de handicap, on peut ressentir un sentiment profond d'abandon et de désespoir. Au point que l'on pousse ce cri, et finalement que l'on soit croyant ou non, jusqu'à quand, Dieu, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand, Dieu, m'oublieras-tu sans cesse ? Certains ont vécu la perte d'un être très cher ou peut-être une perte relationnelle. La disparition de l'être aimé fait mal. Son absence bouleverse. Pourquoi si tôt? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi un tel abandon? Quand on a construit sa vie avec quelqu'un, son départ laisse un trou béant, une blessure qui finalement ne cicatrisera jamais. La tristesse, la déprime et peut-être même la dépression font leur nid au fond de notre cœur. Jusqu'à quand, Dieu, te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand, Seigneur, te détourneras-tu de moi? On ne se connaît pas très bien, mais certains parmi vous ont peut-être perdu leur emploi. Et dans de telles circonstances, on peut avoir le sentiment d'être oublié par Dieu. On avait l'impression d'être à sa place et de donner son maximum pour la réussite de son entreprise ou de son institution. Et la perte de son job résonne comme une sorte de camouflet. Que vais-je être sans mon travail? Que suis-je sans l'identité et le statut que me conférait ce job? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand aurais-je des soucis ou gambergerais-je? Et jusqu'à quand aurais-je chaque jour le chagrin au fond de mon cœur? Certains ont peut-être vécu parmi vous un conflit violent avec un proche, avec un collègue de travail ou avec un voisin. Ils ont peut-être dans ces circonstances difficiles perdu le sens de l'orientation. Ils ne savent plus comment réagir. La désolation et la désorientation ont envahi leur existence. Et ils s'entendent dire aussi, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ce psaume 13, vous savez, il est extraordinaire. Parce que au travers de ces trois premiers versets qu'on a là sous les yeux, eh bien, ce psaume a la capacité de mettre des mots sur nombre de nos situations qui sont marquées par des pertes, par des épreuves, par la maladie. Et c'est vrai que dans ces circonstances-là, lorsqu'on fait sienne cette parole de Dieu, on voit une Bible, on voit des psaumes qui viennent à notre aide. Alors que nous sommes peut-être muets, nous sommes devenus des sans-voix face à ce qui nous arrive, ce début de psaume peut nous permettre de retrouver un accès à la parole. Ce début de psaume peut nous permettre de retrouver cette connexion, non pas avec Dieu tout de suite, mais tout d'abord avec notre être intérieur, pour nous permettre de pousser un cri, de pousser ce cri. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Face à la souffrance et aux épreuves qui nous assaillent, il y a toutes sortes de manières de vivre de tels bouleversements. Il y a tout d'abord le déni. Nous ne laissons pas monter en nous les questions que posent nos épreuves ou notre maladie. Nous faisons tout pour éviter cette confrontation à la réalité de ce qui nous arrive. On minimise, ou pire, on nie la réalité et la portée de ce qui s'est passé, ainsi que les questions que cela pose. Le 1er novembre dernier, nous avons appris avec mon épouse qu'elle avait un cancer du pancréas. Et vous savez, les cancers du pancréas, c'est une sale maladie, comme m'a dit un collègue. Et dans ces circonstances-là, alors qu'on mesure peut-être pas encore très bien, je ne suis pas médecin, donc je ne vois pas trop la portée d'une telle maladie, on a la tentation de se dire, mais finalement, bon, ça va aller, tout va bien. Et le show must go on, le show doit continuer, la vie continue, et on ne se laisse nullement toucher par ce qui arrive. On fait le gros dos. Mais le fait de vivre cela au quotidien, d'être touché dans son quotidien avec quelqu'un autour de vous qui tout à coup entre dans une chimiothérapie, vous fait découvrir toutes les difficultés, les vomissements, les nausées, l'accompagnement extraordinairement exigeant d'un proche aidant, donc de ma part, de moi, son mari. Et c'est vrai que dans ces circonstances-là, tout à coup, notre monde s'effondre. Notre monde est complètement bouleversé et on est obligé de s'interroger sur la manière dont on va gérer cette perte de santé, cette maladie. Ça nous contraint à un examen intérieur profond, à se poser des questions. Alors que finalement, jusque-là, on avait été passablement épargné et puis la vie était belle. On a 6 petits enfants, hein, on a 3 enfants adultes qui se débrouillent plutôt bien, on a été gâtés, on n'a jamais eu de grosses casses. Et tout à coup, le 1er novembre dernier, il y a ce coup de bambou qui nous tombe sur la tête. Et c'est vrai que nous autres, les mecs, nous autres, les hommes, surtout nous, me semble-t-il, on a une extraordinaire capacité, au vu de certains standards culturels, à vivre dans le déni, afin de limiter l'impact de l'épreuve, l'impact de la maladie sur chacune de nos vies. Il faut être fort, il faut affronter l'adversité en regardant toujours droit devant soi. C'est vraiment une forme de déni par rapport à ce qui nous arrive. Donc à côté du déni possible face à l'épreuve, il y a une autre manière de réagir, c'est la colère et la révolte. Et c'est vrai que nous avons aussi, ou j'ai aussi, connu cela. Le 1er novembre dernier, cela faisait tout juste une année que nous avions commencé notre engagement à l'église de la Pélisserie. Et puis voilà, vous connaissez peut-être les différentes dynamiques d'église, mais l'église de la Pélisserie a un besoin de revitalisation et mon épouse s'était aussi beaucoup impliquée là-dedans. Et tout à coup, pile poil, une année après le début du ministère là-bas, le coup de bambou sur la tête. Et là, on se dit, mais Seigneur, tu fais quoi ? Seigneur, tu es où ? Seigneur, comment c'est possible ? Alors qu'on avait la conviction que tu nous conduisais à aller là-bas, on se retrouve finalement, alors que nous étions censés apporter quelque chose à cette église, on se trouve finalement comme un pasteur qui est handicapé, qui a des difficultés, et qui finalement ne pourra pas apporter pleinement ce qu'il aurait souhaité à cette communauté. Donc à côté du déni, on peut avoir de la colère, de la révolte à l'endroit de Dieu. On peut se révolter, on cherche vraiment l'auteur de ces mots, l'auteur pour lui faire des reproches. On arrive même peut-être pendant un temps à être aigri. Notre colère et notre révolte ne font alors finalement qu'accroître nos souffrances et nous nous retrouvons vraiment seuls dans notre situation, incapables même de recevoir avec reconnaissance une oreille attentive auprès de laquelle nous pourrions exprimer notre détresse. Déni, colère et révolte, deux manières de réagir dans l'épreuve. Et parmi ces réactions possibles dans l'épreuve et la maladie, il y a aussi la résignation. On pourrait se dire, dans nos circonstances, mais j'abandonne tout. À quoi bon ? Finalement, je dois réduire mon temps de travail, je dois m'occuper de mon épouse, je deviens un proche aidant quand les nuits sont difficiles, quand il y a des nausées et des vomissements, je dors mal, je ne suis pas vraiment très efficace. Et on entre dans une dynamique de défaitisme et de dépression. On n'a plus envie de rien, sinon peut-être regarder des séries sur son téléphone portable, finalement, sans autre possibilité de faire autre chose. On pourrait donc vraiment en rester là et être complètement abattu et dire jusqu'à quand ? Et ce qui est intéressant avec ce psaume 13, et on passe à la slide suivante, ce psaume 13 qui est parole de Dieu, c'est que ce psaume met des mots sur nos mots Emmaüs, il nous permet d'exprimer notre cri de révolte, il nous permet de prononcer un appel au secours avec ses multiples jusqu'à quand ? Et dans le même temps, ce psaume 13 nous prend par la main. Il nous invite à aller plus loin, à ne pas rester bloqués sur notre chemin de déni, de colère ou de résignation. Au verset 4, on peut lire « Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. » Je ne sais pas si vous voyez ce deuxième paragraphe de ce psaume. C'est une invitation toute simple dans nos circonstances à ouvrir la bouche et à utiliser ces paroles, même si on en est complètement incapable, pour s'adresser au Seigneur, pour lui demander de nous regarder, de nous répondre, d'intervenir dans notre situation. Et ce qui est intéressant avec le premier paragraphe, si on fait une petite comparaison, c'est que au verset 2, il était question de Yahweh ou du Seigneur, comme on traduit dans nos Bibles en français. Et puis là, il est question du Seigneur, mon Dieu. Comme si on s'était approprié ce Seigneur, comme si on en avait fait quelqu'un d'extraordinairement proche pour lui dire, Seigneur, vraiment, regarde, regarde ma situation, mon vide intérieur. Regarde le non-sens de ma vie. Regarde ma perte d'identité suite à la perte de mon emploi. Et réponds-moi. Donne-moi une parole qui pourra m'accompagner et me porter sur mon chemin de vie. Dans toutes nos démarches de digestion d'un mal subi, il y a de la place dans le donné biblique pour crier au ciel notre souffrance, pour lancer à Dieu notre SOS. Il n'y a aucun péché, aucun tort à procéder de cette manière, à être même peut-être parfois rude avec Dieu. Et au travers de ce psaume très court, 6 versets, il y a une invitation à aller plus loin, à s'approprier le grand Dieu, créateur de toutes choses, et en faire son interlocuteur privilégié. Toi, Dieu, Dieu de Jésus-Christ, tu es mon Dieu, et dans mes circonstances, je veux, je souhaite que tu interviennes, je souhaite que tu me donnes une parole qui m'ouvre à autre chose. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de franchir cette étape dont on connaît l'épreuve, de faire de ce grand Dieu créateur de toutes choses son Dieu, son Seigneur. Parfois, il est plus facile de laisser ce Dieu à distance et de lui balancer tous nos griefs, toutes nos incompréhensions, toutes nos amertumes et toutes nos rancœurs, et surtout de maintenir ce Seigneur à distance. Et dans cette deuxième étape que propose le psaume 13, on passe du cri et peut-être d'une non-réponse à ce cri, d'une non-explication face au mal ou à l'épreuve que l'on subit, à l'ouverture malgré tout à ce Dieu qui, par-delà le mal que l'on connaît, est prêt à m'accompagner de sa présence. Fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort. On pourrait, au sens littéral, la pensée que c'est une invitation à rappeler le psalmiste de la mort à la vie, une sorte d'appel adressé à Dieu pour rester en vie. Mais plus profondément, on peut penser qu'il y a là une demande à Dieu de nous redonner des émotions par rapport à notre situation personnelle et à la capacité de ressentir profondément ce qui nous afflige. Et peut-être tout simplement cette capacité à pleurer sur le mal subi, à pleurer sur notre condition humaine qui est difficile, inscrite dans le temps, alors que nous avons des envies d'éternité, inscrite dans la fragilité de nos corps, alors que nous nous souhaitons éternellement jeunes, inscrite dans un besoin d'harmonie, alors que souvent le relationnel fait problème et rend peut-être amer et désillusionné. Au cœur de nos épreuves, Dieu avec un point d'interrogation. Ce qui est extraordinaire dans ce petit psaume, si on regarde le verset 6, « Moi j'ai mis ma confiance en ta fidélité, mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut, je chanterai pour le Seigneur car il m'a fait du bien. » C'est que ce petit psaume nous propose un chemin au cœur des difficultés qui sont les nôtres, un chemin qui passe tout d'abord par ce cri, jusqu'à quand ? Et ce cri, tous les éprouvés du monde le poussent un jour, qu'ils soient athées, agnostiques, croyants ou chrétiens engagés. Et l'auteur de ce psaume invite chacun à aller plus loin sur ce chemin, à faire de cette puissance avec un P majuscule, de cette transcendance, le témoin de ce qui nous arrive, celui qui va regarder et considérer notre situation. Parce que dans l'immensité de l'univers, la foi chrétienne affirme que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un être tout-puissant qui se soucie de nous, qui souhaite nouer une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Jésus de Nazareth, qui est Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui nous rend compte tout au long de son ministère parmi les êtres humains, de cette proximité de Dieu, de ce désir du Père de venir nous rencontrer. Et Jésus, lorsqu'on lit les évangiles, il s'est soucié des plus éprouvés, des endeuillés, auxquels il a redonné l'espérance. On peut penser aux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, on peut penser aussi à la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique, semble-t-il. Jésus s'est soucié des plus éprouvés, il s'est soucié des malades et des handicapés, de ces marginalisés de l'époque, qui étaient les boiteux, les aveugles et les lépreux. Sa présence les a ouverts à la réalité du royaume de Dieu. On peut penser, si l'on prend le début de l'évangile de Marc, à l'homme possédé d'un esprit impur à Capharnaüm, au lépreux qui vient au devant de Jésus et qui lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », au paralytique amené près de Jésus par des amis à travers le toit d'une maison. On peut donc, dans nos circonstances, faire confiance à ce Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous qui peinez sous la charge, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. » Et là, on rejoint ce verset 6 du psaume 13 qui se termine par un pas supplémentaire dans un face-à-face avec Dieu, avec les cris. Après les cris jusqu'à quand, après les supplications ou les prières, il y a ce pas supplémentaire dans ce face-à-face. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. On peut comprendre cette affirmation comme le premier pas de cette troisième étape. Il s'agit d'une décision à prendre, que le psalmiste lui-même prend et qu'il nous invite à prendre à notre tour, faire confiance malgré tout à ce Dieu de l'univers qui s'est approché de nous en Jésus-Christ et qui s'est fait humain parmi les humains. Il y a là, oui, c'est vrai, comme une sorte de pas de foi, mais non pas un gigantesque pas de foi qui témoignerait d'un élan extraordinaire, non, un tout petit pas, un pas de saucisson, hein, comme on disait quand on était enfant, qui témoigne d'un petit brin de crédit accordé à ce Seigneur qui est devenu mon Dieu et qui s'est approché de moi au travers de Jésus. Moi, j'ai confiance en ta fidélité. Il y a là comme un abandon qui dessine un chemin. C'est un processus qui va conduire le psalmiste de cette confiance mise en la fidélité de Dieu, dans le fait qu'il n'est pas à l'origine de ce qui nous arrive parce qu'il n'y a aucun mal en Dieu, à une affirmation assez exubérante de sa foi. Je chanterai le Seigneur parce qu'il m'a fait du bien. Malgré les circonstances, malgré les deuils, malgré les pertes, malgré la maladie. Alors, dans ce processus, en trois étapes que dégage le psaume 13, chacun marche à son rythme. Mais au travers de cette troisième étape, il y a là comme un oui calculé, un oui en attente de retour sur investissement. Que va-t-il se passer, Seigneur, si malgré mes circonstances, je m'abandonne à toi et je risque la confiance. Une confiance fragile, une confiance nue. Et c'est vrai que lorsqu'on vit l'épreuve et qu'on prend ce psaume pour conduire un petit peu notre démarche, eh bien il y a de nouveaux questionnements qui apparaissent. Puis-je prier pour le dénouement auquel je soupire ? La guérison de mon épouse ? Oui. Ou dois-je accepter la réalité de ce qui m'est arrivé et vivre en conséquence ? Ben oui aussi. Mais dans ces circonstances, je peux goûter à un abandon confiant. Je peux me remettre moi-même entre les mains du Seigneur. Je peux prier pour que Dieu, des circonstances tragiques que je connais, puisse faire sortir du bien malgré tout, malgré mes souffrances et mes difficultés. À vous qui vous trouvez dans une situation d'épreuve et de difficulté aujourd'hui, prenez ce psaume comme un psaume chéri, comme un psaume que vous aimez, comme un psaume qui peut vous accompagner et vous porter. Rappelez-vous de ce psaume 13 et de ces trois moments qu'il nous propose de traverser, le cri, la supplication et en finale la confiance. Il y a là à chaque fois un risque à entrer dans chacune de ces étapes et à les vivre, que l'on soit athée, agnostique, croyant ou chrétien engagé. Mais Dieu ouvre des portes au cœur de nos épreuves et de nos maladies. Il nous le promet en Jésus, lui qui nous dit et qui nous le rappelle ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Seigneur, j'aimerais te remercier ce matin pour ce psaume 13 qui peut nourrir chacune de nos circonstances. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont éprouvées au milieu de nous, que Seigneur, tu leur donnes de pouvoir goûter à ces trois étapes et à pouvoir faire de ce psaume un moyen d'avancer dans leur épreuve, dans leur désillusion, dans leur désespoir et peut-être même dans leur dépression. Seigneur, c'est une joie de savoir que tu nous invites à venir à toi et à tout déposer devant toi et à goûter à ton repos. Parce que Seigneur, c'est toi qui le donnes. C'est toi qui donnes le véritable repos, quelles que soient les circonstances et les tragédies par lesquelles nous pouvons passer. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu ouvres des perspectives devant nous et tu nous donnes de pouvoir goûter à ton repos. Amen.
Je chanterai pour le Seigneur. Ça marche le micro? Je chanterai pour le Seigneur car il m'a fait du bien. C'est une très bonne conclusion de ce moment de partage de ce texte biblique. On arrive à un moment où c'est le moment de partage, de prière les uns pour les autres. Comme sujet de prière, bien sûr qu'on peut prier pour que nous progressions dans l'amour les uns pour les autres, pour les gens qui nous entourent. On peut prier aussi pour notre communauté, pour ses responsables et particulièrement pour Philippe Anchon et puis sa femme Heidi qui est aussi malade, et prier que vraiment il passe par un temps de guérison, qu'il puisse se remettre, parce qu'on a bien besoin de lui et lui il est vraiment pas bien. Nous pouvons prier aussi pour les familles en deuil, puisqu'il y a deux familles qui ont perdu un proche ou un parent. Donc passons du temps dans la prière et à l'écoute du Saint-Esprit aussi. Seigneur, que ce soit dans la joie ou que ce soit dans les temps difficiles, nous savons que tu nous accompagnes. C'est comme cette personne qui marchait dans le désert et qui avait déjà une trace et qui suffisait de suivre. Seigneur, merci pour ta présence.
Comme chasse sur vase face à la situation difficile de notre ami Serge Carrel et de son épouse. Seigneur Jésus, c'est vrai que ce psaume 13 nous encourage à nous confier en toi. Et tu as mis aussi autour de nous des frères et des sœurs qui, dans l'épreuve, sont là. Et cette amitié, Seigneur, elle vient de toi. Plus on est la source et plus elle rafraîchit. Et Seigneur, c'est dans cette amitié que nous voulons te remettre Serge et sa femme, que tu les gardes dans ces temps d'épreuve, et que ce psaume 13 puisse être pour eux une réalité de tous les jours dans ces trois dimensions. Nous les bénissons en ton nom. Amen.
Amen. Amen.
Oui, Seigneur, nous voulons ta guérison. Toi, parce que toujours un Dieu qui guérit, qui nous guérit bien. Tu es là quand nous on souffre physiquement, tu es là quand on souffre de blessures d'âme, de deuil. Je te remercie pour ta présence. Parce que quand on te demande, tu es là et tu viens de nous. Je te remets vraiment Philippe, Serge, les familles en Bolivie.
Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous dis « Répandez vos cœurs dans sa présence ». Seigneur, tu permets qu'on soit vrai avec toi. Et Seigneur, c'est extraordinaire de ce qu'on ose te dire. Toutes nos incompréhensions, même notre colère. Mais Seigneur, ton amour pour nous ne varie pas. Et que nous puissions rester dans cette certitude. Et Seigneur, je crois que c'est quand on est vrai devant toi que tu peux vraiment parler à nos cœurs. Et je te demande que pour toutes les personnes qui sont éprouvées, et je pense particulièrement à la famille de Serge, qu'ils puissent recevoir le mot qui les aidera à tenir bon jusqu'au bout. Seigneur, si on t'abandonne, c'est encore pire. C'est encore une situation pire puisqu'on se retrouve tout seul. Alors Seigneur, je te demande, par ton Saint-Esprit, que tu leur donnes à chacun une parole dont ils ont besoin pour les aider à vivre ce que tu leur demandes de vivre. Et que ça puisse être pour la gloire de ton nom. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Mais Seigneur Jésus, j'aimerais aussi te prier pour les membres de notre Église. Seigneur, qui sont aussi dans jusqu'à quand. Et Seigneur Jésus, merci aussi pour aussi nous rappeler qu'il y a cette question. Il y a aussi ce petit pas qu'on peut faire de dire Seigneur, regarde. Il y a aussi ce petit pas de foi, ce petit pas de saucisson, de dire ben, toi, tu es là. Et Seigneur, que nous puissions sentir ta présence et que tous les membres de notre Église qui souffrent puisse aussi sentir ta présence et faire ce petit pas de saucisson de dire ben, j'ai foi en toi, Seigneur Jésus, rejoins-moi dans ma condition, dans mon quotidien. Amen.
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 Amen. Nous allons entrer dans un temps d'offrande. Je demanderai à trois personnes de venir me donner un coup de main pour la récolte. Alors bien sûr que vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose. C'est vrai que notre communauté, comme on le répète chaque fois, vit uniquement des dons des personnes. Mais il y a bien sûr d'autres moyens que de mettre dans le panier. Il y a Twint, il y a des comptes bancaires. Il y a plein de possibilités. L'essentiel, c'est vraiment de louer le Seigneur.
Le chant que nous allons chanter parle de relever le faible. Et je crois que ça colle assez bien avec le message que Serge a apporté. Et puis que voilà, que ceux qui sont justement dans cette faiblesse et qui vivent ces temps puissent être encouragés par ce chant. Place. J'ai prié pour l'offrande. Seigneur, merci pour cette possibilité d'alimenter en fond notre communauté, qu'elle puisse avoir ses serviteurs qui sont là pour toi. Et nous te prions de continuer à bénir tout ce qui est financier dans notre communauté. Merci pour ta présence aussi dans ces aspects-là de notre vie. Amen. Avant la bénédiction, il y a encore une annonce qui concerne le groupe GRC, donc recherche des conseillers.
Voilà, bonjour. En juin 2025, notre église est appelée à renouveler son conseil. Il y a un groupe qui a été créé, le GRC, dont je fais partie, que je préside. Et nous vous avons envoyé cette semaine un email. j'espère que vous l'avez reçu, aux membres. On a envoyé une liste des membres, ceux qui participent généralement aux colloques et aux assemblées générales. Et voilà, donc vous avez reçu ce document, une lettre explicative et aussi un formulaire. Nous avons besoin de votre aide et nous vous demandons de nous aider à discerner, à rechercher des personnes qui pourraient venir renouveler ce conseil. C'est important pour nous que vous proposiez vous réfléchissiez, vous priez, puis que vous mettez sur ce formulaire et que nous allons récolter d'ici le 23 février. Alors merci de nous accompagner dans la prière, dans le discernement pour renouveler. Il y a une lettre explicative qui a accompagné ce formulaire, vous pouvez vous y référer. Ceux qui ont de la peine à imprimer ce formulaire, j'ai quelques copies avec moi. Elles seront au fond de la salle avec cette boîte. Et pour ceux qui ne veulent pas renvoyer par e-mail à l'adresse GRC, vous pouvez toujours la glisser là-dedans. Elle sera là tous les dimanches. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Oui. J'ose juste rappeler que ce soir à 18h, on va partager un moment de louange ensemble à la chapelle à 18h pour ceux qui veulent venir. Ce sera aussi autour d'un psaume, le psaume 100 en l'occurrence. À tout à l'heure.
Voilà, nous arrivons au temps de la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Maintenant, je me suis posé la question, peut-être que je ne suis pas le seul, à quoi ça sert ces bénédictions ? Est-ce que c'est simplement une vieille habitude protestante ? Est-ce que c'est un temps de transition pour quand on va sortir dans la vie, hors de l'Église ? En fait, si on regarde dans le Nouveau Testament, elles sont comme des ponts, en fait, entre le moment que nous vivons ici en Église et puis la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Alors, pour vous faire plaisir, il n'y aura pas une, mais deux bénédictions que j'ai trouvées dans les psaumes ou dans un texte. La première, c'est que le Seigneur use de sa grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous, sur notre face, comme on dirait aussi. Et la deuxième, c'est dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. » Et ça suit avec « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le signe de la présence du Christ. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Petite encore information de ma part, sans retourner au stade du Covid, il y a effectivement beaucoup de grippe qui circule. Elle est assez forte, j'ai testé pour vous. Et faites un peu attention et peut-être utilisez les gestes barrières qu'on avait appris à l'époque. Mais évitez peut-être les bises ou les poignées de main. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de malades. Et quand on voit l'état de Philippe, c'est pas très rassurant. Voilà. Bon dimanche à tous et profitez bien du café, du moment convivial à côté.